Voilà, c'est la nature qui me rattrape avant que la nature me rattrape. Je suis passé du coup dans le clan de ceux qui n'ont pas de cheveux. C'est comme ça, mais voilà, il fallait faire le pas. Mais je vous propose du coup d'ouvrir la parole de Dieu. Et voilà, nous sommes sur une série cet été sur les paraboles de Jésus. Nous avons vu deux paraboles les deux derniers dimanches, une en immersion dans la parole avec la parabole des deux fils. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Et puis la semaine dernière, on a vu. Est-ce que vous vous rappelez ce qu'on a vu? Parabole du semeur, tout à fait, avec les différents terrains. Ce matin, je vous propose une autre parabole, et j'ai intitulé le message de ce matin, et qui vient un peu dans le même sens que la prière de notre frère Yann. C'est le titre de mon message ce matin, « La porte du Seigneur est toujours ouverte ». Et je vais commencer du coup par cette petite histoire. En 1960, une fillette de 6 ans, qui s'appelait Ruby Bridge aux États-Unis, fut la première enfant noire à intégrer une école réservée aux Blancs à la Nouvelle-Orléans. Et c'était à l'époque du coup de la ségrégation aux États-Unis. Et chaque matin, elle traversait du coup une foule qui criait, l'insultait, la menaçait de par sa couleur de peau. Et les adultes pensaient qu'elle était terrorisée. Et un jour, un psychologue va lui demander « voilà, est-ce que t'as pas peur quand même ?» à force, et elle va répondre « si, mais chaque matin, je parle à Dieu en marchant, et je lui demande du coup de m'aider à aimer ces personnes qui ont de la haine. » Et cette petite fille du coup ne priait pas parce qu'elle croyait que Dieu était difficile à convaincre, elle priait parce qu'elle savait qu'elle pouvait venir vers lui comme vers un père. Déverser son cœur. Et c'est exactement ce que Jésus veut nous apprendre ce matin à travers cette parabole. Mais avant d'aborder ce texte, je voudrais vous poser une question. Pourquoi nous prions si Dieu sait déjà tout? Vous êtes d'accord que Dieu sait déjà tout? Il est souverain. Mais du coup, pourquoi nous prions? Ok. Et pourquoi du coup? Est-ce que c'est un pervers narcissique, Dieu, qui a besoin que... Ouais, c'est vrai. Tout à fait. Tu disais une autre chose, Anita. Pour entrer en relation, c'est les deux réponses. En fait, Dieu attend de nous la relation. Et il attend surtout que, quelque part, nous montrons notre dépendance. Que nous ne sommes pas autosuffisants. La prière, du coup, par rapport à Dieu, ce n'est pas un rapport d'information. On n'informe pas Dieu. Dieu sait déjà. Et d'ailleurs, on voit dans la parole que certaines fois, des hommes dans la Bible, comme Jabez, vont à peine exprimer leurs besoins que Dieu répond avant même. Et ça nous arrive aussi. Donc Dieu n'a pas besoin d'information. Mais c'est une relation qu'il attend de nous, une relation d'amour. Et la prière crée la confiance entre nous et le Seigneur. Cette confiance, Dieu l'a, mais c'est nous qui, des fois, manquons. Et du coup, Dieu attend de nous que nous exprimons nos besoins, qu'il connaît déjà, parce que la prière nous fait vivre comme des enfants qui dépendent de leur père, comme l'a dit Jackie, dépendant de notre Seigneur. Nous créons notre dépendance quand nous exposons nos besoins. Je vous propose du coup de lire ce texte, c'est dans Luc chapitre 11, j'ai pas mis le texte, je vous propose de prendre vos Bibles, Luc chapitre 11, et on va lire du coup du verset 5 à 13. Dans cette parabole, ce qui est intéressant comme la parabole du semeur, c'est que Jésus va citer la parabole et une explication. Donc on verra que vers la fin des paraboles qu'on va aborder cet été, il n'y a pas d'explication. Mais là, c'est plus facile puisqu'il y a l'explication que Jésus donne. Donc c'est Luc chapitre 11, versets 5 à 13. Ouais, Évangile de Luc chapitre 11, versets 5 à 13. Vous l'avez ? Supposez que l'un de vous ait un ami et qu'il aille le réveiller en pleine nuit pour lui dire « Mon ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis qui est en voyage vient d'arriver chez moi et je n'ai rien à lui offrir. » Supposons que l'autre, de l'intérieur de la maison, lui réponde « Laisse-moi tranquille, ne me dérange pas, ma porte est fermée. Mes enfants et moi, nous sommes couchés, je ne peux pas me lever pour te les donner. » Eh bien, je vous l'affirme, même s'il ne se lève pas par amitié pour les lui donner, il se lèvera pourtant et lui donnera tout ce dont il a besoin, parce que son ami insiste sans se gêner. Et moi je vous dis, demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira la porte, car quiconque demande reçoit, qui cherche trouve et l'on ouvrira la porte à qui frappe. Quel père parmi vous, si son fils lui demande un poisson, lui donnera un serpent, ou s'il demande un œuf, lui donnera un scorpion? Si donc, tout mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent ? Amen. Merci Seigneur pour ta parole ce matin. Et pour cette parabole, Jésus, toi qui sais parler en images, que cette parabole qui a pu impacter, mon Dieu, les personnes il y a 2000 ans, puisse impacter nous, chrétiens de Saumur. En 2026, mon Dieu, que cette parole ne puisse pas rester dans notre intelligence, mais descende dans nos cœurs. Amen. En lisant ce texte, que vous connaissez sans doute, on pourrait se poser une autre question. Et je vous pose cette question. Qui pense, et on peut le penser, hein, que si on prie assez longtemps, Dieu finit forcément par dire oui. On peut des fois le croire. Et souvent, pourquoi je pose cette question? Parce que souvent, en lisant cette parabole, on peut croire que Jésus enseigne cela. Qu'il faut prier, mais des fois, il faut répéter avec moi, parce que Dieu, il est un peu sourd d'oreille. Et si vous répétez, eh ben, j'ouvrirai la porte un peu comme cet homme-là qui est dérangé durant la nuit. Est-ce que c'est ce que ce texte veut dire? Pas du tout. Alors du coup, c'est bien de clarifier les choses. C'est ce qu'on peut croire, quelquefois, en lisant cette parabole assez rapidement. Mais ce n'est pas l'explication que Jésus donne. Dieu répond à toutes nos prières du moment qu'on insiste lourdement. Ça, c'est faux. Dieu n'est pas quelqu'un qui change d'avis comme cela. Et ce n'est pas ce que Jésus ici enseigne. Avant de raconter cette histoire, il faut voir le contexte. Jésus, juste avant, et on ne l'a pas lu parce que voilà, ça fait trop long, vient d'enseigner le Notre Père à prier. Et il dit, voilà comment vous devez prier. Et il cite, il apprend aux disciples Notre Père. Et il apprend à ses disciples, du coup, à appeler Dieu Père. Dieu est un Père, sur lequel nous pouvons exposer ce que nous sommes. Et maintenant, il va leur montrer, et c'est pour ça qu'il cite tout de suite la parabole, qu'est-ce que ça signifie que Dieu est un Père? Et c'est la signification de cette parabole. Cette parabole, elle ne veut pas dire qu'il faut insister avec Dieu et en croyant que Dieu changera d'avis. Non, c'est finalement quel est le cœur de Dieu. Dieu est un Père, qu'est-ce que ça veut dire? Le point de départ, c'est mon premier point, c'est le placard vide, versets 5 à 6. Dans cette histoire, l'homme qui frappe en pleine nuit, ce n'est pas un profiteur qui veut quelque chose à manger pour lui-même. Ce n'est pas pour lui qu'il frappe. C'est parce que... Dans le texte, qu'est-ce qu'il dit? Il a un invité. Un invité qui est arrivé en urgence, un voyageur qui est arrivé chez lui, et la tradition de l'époque exige de lui offrir un repas. C'est la culture de l'honneur. Il faut lui offrir un repas. Ne pas nourrir un invité était une honte, et le problème, du coup, il va être résumé au verset 6, dans une phrase terrible, « Je n'ai rien à lui offrir ». Cet homme qui va frapper à la porte de son voisin, il n'a rien. Il a un invité, mais il n'a rien à lui donner. À votre avis, qu'est-ce qui bloque le plus nos prières au quotidien ? Quand on prie, des fois, on se dit, j'ai l'impression que c'est peut-être moi. Qu'est-ce qui bloque, en général, dans nos prières au quotidien, dans notre posture? Justement, j'allais poser, est-ce que c'est le manque de foi? Ou parce qu'on ne sait pas utiliser les bons mots religieux, spirituels? C'est la tendance hein, qu'on pourrait croire. Hein. Et on s'imagine souvent que pour bien prier, il faut être fort dans la foi, avoir une grande foi ou faire de belles phrases. Mais en fait, notre problème et nos blocages viennent surtout, bien souvent, que quand on prie, et vous allez vous reconnaître, moi je me suis reconnu, des fois on prie le Seigneur et on cherche des solutions par nous-mêmes. Et le blocage, il est là. C'est qu'on prie, mais on s'active dans tous les sens, on réfléchit dans tous les sens, et du coup, en fait, on prie pas vraiment. On expose à Dieu tout en croyant que le Dieu, c'est nous. Et que du coup, c'est par nos propres forces, nos propres efforts que ça va marcher. Du coup, on s'active dans tous les sens, et on pense qu'on a assez de force, assez d'intelligence, pour que Dieu, quelque part, Dieu c'est intéressant, mais moi je vais faire quand même par moi-même. Donc il y a un non-sens quelque part. Et le vrai blocage, bien souvent, alors c'est pas le seul, hein, mais bien souvent c'est cela nos prières, c'est que nous considérons pas que nos placards sont vides. Nos placards le sont, mais on pense que du coup on peut quand même faire des choses. La vraie prière ne commence pas par quand on fait l'effort devant Dieu, elle commence exactement comme dans cette histoire. Quand on s'arrête et quand on avoue à Dieu, « Seigneur, mon placard est complètement vide. Ce matin, je n'ai pas de pain, je n'ai rien à donner. » Et ça, c'est le lâcher-prise total. L'homme qui va frapper chez son ami, parce que... Pourquoi il va frapper chez son ami? Parce qu'il est à sec. S'il avait ne serait-ce que deux morceaux de pain chez lui, il n'aurait jamais osé déranger son voisin. Pourquoi il va le déranger? Parce qu'il n'a rien. Et que la culture de l'honneur l'exige, du coup, d'accueillir celui qui vient chez lui. La prière, mes frères et sœurs, ce n'est pas une option pour les chrétiens super spirituels. Prier, c'est venir devant Dieu et dire « Seigneur, ce matin, face à mes enfants, face à mon travail, face à ma famille, face à ma maladie, face à mes tentations, je n'ai rien à offrir. Je n'ai pas de solution. Mes placards, Seigneur, sont vides. Vides de patience, vides de force, vides de charge mentale, vides d'amour. Je viens chercher le pain chez toi. Parce que moi, je n'ai rien. » Et c'est ça la base de la prière. C'est confier à Dieu que nous n'avons rien. Si nous avons tout et qu'on peut faire, bah, à quoi ça sert de prier alors? Faisons nous-mêmes et arrêtons de prier. Mais la prière, ça commence par l'humilité, reconnaître que nous ne pouvons rien par nous-mêmes. Parce que nos placards, comme cette histoire, nos placards sont vides. Cet homme qui vient déranger, il ne vient pas déranger parce qu'il aime embêter son voisin. Il dérange parce que ses placards sont vides. Si tu te sens sec ce matin, ou inapte à quoi que ce soit, j'ai envie de te dire bravo. Parce que tu as le profil parfait pour commencer à prier. C'est celui qui sent qu'il ne peut rien faire. Parce que dans sa vie, il traîne des casseroles, cette semaine a été une mauvaise semaine, et bien tant mieux, c'est le commencement de la prière. Parce que Dieu est un Père. Mon deuxième point, c'est le grand malentendu. Dans cette histoire, Dieu, ce n'est pas le voisin qui est grognon. Souvent, on fait le parallèle, dans cette parabole, Jésus, en tout cas Dieu, ce n'est pas le voisin qui grogne et qui est dérangé en pleine nuit. Il faut regarder la suite. Le voisin répond de l'intérieur, qui est dérangé, hein. « Laisse-moi tranquille, ne me dérange pas, ma porte est fermée, mes enfants et moi, nous sommes couchés, je ne peux pas me lever pour te les donner. » Il faut savoir qu'à l'époque, les familles dormaient tous ensemble sur une grande natte unique. Les familles, en tout cas de milieu modeste, au milieu de la seule pièce de la maison. Et du coup, ce que cela signifiait, si on devait se lever, c'est on réveille tout le monde. Les enfants, la femme, tout le monde. Et Jésus va dire ceci au verset 8, « Même s'il ne se lève pas par amitié pour les lui donner, il se lèvera pourtant et lui donnera tout ce dont il a besoin parce que son ami insiste sans se gêner. » Bien souvent, on peut prier pour la même chose depuis des mois, voire des années. Pour une guérison, la conversion d'un proche, un travail, et rien ne se passe. À votre avis, quand c'est comme ça, en toute franchise, hein, on va pas faire semblant ce matin, quelle image de Dieu on a? Ouais, c'est ça. On se dit, bah, ce Dieu-là, il dit des paraboles comme ça, mais en fait, moi, ça fait X années que je prie, et il n'y a rien. Comment, du coup, c'est possible? Comment je peux conjuguer les deux? On a l'impression quelque part que Dieu, c'est comme ce voisin qui est dérangé, et Dieu est en train de dormir sans doute, et que limite on l'embête, et qu'il faut peut-être insister. Parce que Dieu est sourd, Dieu est dur, et le dimanche matin on va dire Dieu est bon, Dieu est amour, mais en fait, au fond de nous-mêmes, on sait que Dieu, des fois, il a du mal à entendre. Et mes frères et sœurs, je voudrais vous dire, en tout cas dans le texte biblique de ce matin, Dieu, ce n'est pas ce voisin grognon. Pourquoi Jésus cite cette histoire? Le sens de la parabole ici, c'est qu'il ne faut pas faire de contresens. Hein. Jésus ne dit pas que Dieu est un vieux grognon égoïste et qu'il faut harceler pour lui arracher une bénédiction, c'est tout l'inverse. C'est un contraste ici que Jésus montre. Jésus dit, si même un homme pécheur, égoïste, fatigué, finit par donner du pain à son voisin juste parce qu'il arrête de taper à sa porte, hein, finalement, à combien plus forte raison votre Père Céleste qui vous aime, qui ne dort jamais, va-t-il vous répondre? Et là, j'invente rien, c'est le sens que Jésus donne juste après, avec le sens des pères. Si vous, pères méchants que vous êtes, vous arrivez à donner à vos enfants des bonnes choses, et bien, pour la plus grande forte raison, Dieu, du coup, lui fera mieux. Cette histoire de parabole, les filles, cette parabole, elle est un contraste. Jésus cite un exemple de la vie de tous les jours pour montrer le contraste. Et que Dieu, du coup, si même un homme, aussi égoïste qu'il soit, arrive à donner par insistance, Dieu, lui, qui n'est pas comme ça, fera mieux. Alors une fois que j'ai dit ça, Vous allez me dire, ce ne répond pas à ma question, pourquoi moi, depuis X années, il n'y a rien. On va y venir. Mais quelque part, une chose à avoir en tête, et c'est le sens de la parabole, c'est qu'on peut s'approcher de Dieu de manière simple. Il a fait chaud là ces derniers jours. Et voilà, j'ai mon petit garçon, Johan, là, qui a 2 ans. Mais Johan, quand il a soif, il demande simplement. Il n'a pas besoin d'élaborer une stratégie, d'attendre que ses parents soient de bonne humeur ou frapper selon un code secret sur la table pour avoir un peu d'eau. Il fait pas ça parce que il a peur des parents. Non. Il vient et peu importe d'ailleurs ce qu'on fait, hein, il ouvre, il nous tire et il dit « je veux de l'eau ». Et il va insister tant qu'il n'aura pas son eau. Il se formalise pas avec des détails de manière de formulation. Il va demander son eau. Alors nous, on va insister sur le « s'il te plaît, la politesse », bon, c'est juste ça. Mais il va avoir son eau et il lâchera pas tant qu'il n'aura pas son eau. Dieu, lui, n'a pas de panneau où il y a marqué « ne pas déranger ». Dieu n'est pas comme nous, où nous sommes pris par différentes choses. Dieu est un Père. Ce Notre Père est un Père disponible. Et c'est ce que Jésus veut montrer ici. Il va enchaîner d'ailleurs au verset 9 et 10, avec des verbes au présent assez forts. Demander, chercher, frapper à la porte. Alors du coup, on va essayer de répondre quand même à la question. Pourquoi insister si Dieu est bon? Pourquoi Jésus demande-t-il de persévérer s'il est bon et s'il sait finalement plus nos besoins? Est-ce que c'est parce que Dieu oublie? Est-ce que c'est parce qu'il aime se faire désirer? Est-ce que c'est... À votre avis, pourquoi? Alors ouais, il y a un peu de ça. Ouais, ça c'est vrai. Alors il y a l'état de cœur, mais surtout, c'est vrai hein, ce que vous dites là, mais la raison surtout essentielle, c'est parce que ça produit de la persévérance. Et la persévérance, elle transforme notre cœur et elle nous apprend encore plus, que disait Jackie, la dépendance. La dépendance à Dieu. Dépendre du coup du Père. Peut-être que ce matin, ça fait des mois, des années que vous priez pour un enfant, un conjoint, une guérison, une conversion. Et ce matin, quelque part, le Seigneur voudrait vous dire de continuer. Pas parce que Dieu est dur, mais parce que vous savez qu'il est bon, même quand on ne comprend pas. J'ai discuté avec une sœur là cette semaine, qui rappelait ceci et qui est très juste. Hein. Dieu n'a pas de compte à nous rendre. Dieu n'est pas débiteur à notre égard. D'ailleurs, c'est toute l'histoire de Job. Dieu est souverain surtout. Il nous aime comme un père, mais il y a des choses que nous, dans notre coin, nous ne maîtrisons pas, que nous ne savons pas. Et ce que Dieu attend de nous, c'est la confiance. Alors comment être certain? Comment être certain que Dieu donnera vraiment quelque chose de bon? Et c'est mon dernier point, c'est la fin de cette parabole, le Père donne toujours le meilleur. Jésus termine en touchant une corde sensible, la famille. Il va dire ceci, « Quel père parmi vous, si son fils lui demande un poisson, lui donnera un serpent, ou s'il demande un œuf, lui donnera un scorpion ?» C'est absurde. Aucun père ne fait cela. Même le pire des pères sur cette terre ne ferait pas une cruauté pareille à son enfant, sauf s'il est fou. S'il est fou, alors voilà, c'est de la folie s'il fait ça. Et là, Jésus va poser une conclusion assez forte. Si donc, tout mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Alors du coup, pourquoi, si Dieu est un bon père, pourquoi est-ce que parfois, quand tu lui demandes une guérison, une réussite ou quoi que ce soit, on a l'impression de recevoir un échec ou la maladie? Est-ce que Dieu s'est trompé? Ça vous est jamais arrivé, vous priez, puis en fait, c'est pas du tout ça qui arrive. Et des fois, on se dit même, est-ce que j'aurais dû prier, quoi? Parce que peut-être au fond, Dieu est sadique avec moi, il veut que je souffre. Parce que bien souvent, nous demandons souvent ce que nous pensons être bon pour nous. Mais Dieu, lui, il voit la fin de l'histoire. Il sait, lui, ce qui est réellement bon pour nous, au-delà de nous-mêmes. Et parfois, il va refuser le poisson que nous réclamons parce qu'il sait qu'à long terme, cela nous aurait fait plus de mal et il prépare lui quelque chose de bien meilleur. Et que finalement, dans ce passage, Jésus va répondre, hein, quel est le cadeau ultime que le Père veut nous donner? Qu'est-ce que Jésus dit ici? Est-ce que Jésus dit, qu'est-ce qu'il va donner finalement? À combien plus forte raison le Père Céleste vous donnera de l'argent, de la santé? C'est le Saint-Esprit. Il n'y a pas autre explication, il n'y a pas une liste ici. Hein. Il n'y a qu'une chose, c'est l'Esprit-Saint. Jésus ne dit pas « je vous donnerai autre chose », il demande l'Esprit-Saint. Pourquoi le Saint-Esprit? Parce que par le Saint-Esprit, c'est le Christ qui habite en nous. Saint-Esprit qui est le consolateur que Jésus nous a envoyé, c'est lui qui amène le salut dans le cœur des hommes. Et le Saint-Esprit, mes frères et sœurs, dans notre vie, c'est ce qui nous donne la paix au milieu de la tempête, qui nous permet d'être dans la confiance, d'être dans la joie au milieu de la tristesse et d'être dans la force de tenir quand tout s'effondre. Dieu ne nous donne pas seulement des choses, même s'il le fait, il se donne lui-même. Et la promesse ici de Jésus est assez forte. Bien souvent, ça, on n'en veut pas. Hein. On veut du concret, des choses charnelles. Ça nous parle. Si Jésus, tu me donnes une belle voiture, tu me donnes une belle maison, une belle femme et des beaux enfants, là, c'est parfait. Il n'y a pas marqué ça, hein, là, à la fin. Vous regardez, hein, c'est le Saint-Esprit. Et bien souvent, on dit Amen, là, le dimanche. Vous dites Amen, mais au fond de vous, vous dites, oh, ça ne m'intéresse pas, en fait. Moi, je veux autre chose. Et est-ce que le Saint-Esprit, il peut me donner tout ça? Là, ça m'intéresse. Si c'est ça, ok. Non, c'est pas ça. Dieu se donne lui-même. Et quelque part, pour nous, c'est le plus grand des cadeaux d'avoir Dieu dans notre cœur. Ça permet d'affronter toutes les situations. Nous prions souvent, et c'est bien souvent des fois notre piège, hein, et moi en premier, donne-moi ceci, enlève cela, résous ce problème. Et Dieu répond en nous donnant davantage de sa présence par son esprit. C'est toute l'histoire de Job. Dieu donne sa présence. Et du coup, pour conclure, je voudrais vous raconter une histoire. L'histoire vraie d'un homme qui a vécu à Chicago, peut-être que vous connaissez cette histoire, au siècle dernier, il s'appelle Horatio Spafford. Je sais pas si vous connaissez. Horatio Spafford, c'était un avocat chrétien, américain très engagé, marié, et c'est un businessman. Du coup, il avait une affaire avec lui. Il était marié, il était père de 4 filles et d'un fils. 5 enfants. En l'espace de quelques mois, sa vie va basculer. Il va perdre d'abord son fils qu'il avait, son fils unique, et puis la totalité de ses biens immobiliers dans le grand incendie de Chicago de 1871. Il va tout perdre. Son business, ses biens, sa maison, tout. Ses comptes sont à sec et il n'a plus de force et son cœur est anxieux. Qui le serait pas? Père de famille, 4 enfants. En plus, il a perdu un enfant il n'y a pas longtemps. Il pourrait se dire, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il est chrétien, ce gars-là. Et du coup, il se dit, pour donner un peu de repos à ma famille, pour que je puisse régler mes affaires, il va décider d'envoyer du coup sa femme et ses 4 filles en vacances en Europe. Ils vont prendre le bateau, du coup sa femme et ses 4 filles, et lui, retenu au dernier moment par les affaires, il va laisser sa femme partir avec ses filles, en leur promettant de prendre le prochain bateau quand il sera plus tranquille. Et au milieu de l'océan Atlantique, le paquebot va entrer en collision avec un autre navire et le bateau va couler en 12 minutes. Des centaines de personnes se noient, dont les 4 filles d'Horatio. Tout cela en 6 mois. Il perd 5 enfants. Tout c'est bien. Sa femme Anna, elle est sauvée miraculeusement par un débris et arrivée en Angleterre, elle envoie juste 2 mots terribles à son mari. Seul sauvé. Et vous imaginez l'état de cette femme, hein, qui a vu ses enfants couler. Elle a essayé de les sauver tous, mais 4 enfants grands, pas. Culpabilité, remords, vous imaginez la situation. Hein. Un enfant, déjà c'est dur, alors les 5, j'imagine même pas. Horatio, il va prendre immédiatement le premier bateau pour rejoindre sa femme en deuil. Et une nuit, pendant que la traversée de l'Atlantique, le capitaine du navire, qui connaissait son histoire, va l'appeler sur le pont, il va dire « Monsieur Spafford, d'après mes calculs, nous sommes exactement en train de passer à l'endroit où le bateau a coulé là où vos quatre filles ont perdu la vie. Imaginez la scène, c'est la nuit. Horatio regarde cet océan noir et immense, et humainement, il n'a plus rien. En 6 mois, il a tout perdu. Fils, fille, plus de fortune, ses placards sont vides. Aucun espoir, le désespoir, la colère, sans doute, alors ça, l'histoire ne nous le dit pas, mais sans doute, on peut imaginer. Et au lieu de sombrer, Horatio, qu'est-ce qu'il va faire? Il va descendre dans sa cabine, il va se mettre à genoux, et il va frapper à la porte du Père Céleste. Il ne va pas demander que ses filles ressuscitent, parce qu'il sait que c'est trop tard. Il va demander au Père le pain de la grâce et le secours du Saint-Esprit. Et cette nuit-là, au milieu de la pire crise de sa vie, Dieu va ouvrir la porte de son cœur et va déverser en lui une paix si surnaturelle, une présence du Saint-Esprit si puissante, qu'Horatio va prendre une feuille, il va écrire les paroles d'un chant que vous connaissez, on va le chanter tout à l'heure, que des millions de chrétiens chantent aujourd'hui, quel repos céleste. Quel repos céleste, et ce chant, je vous lis les paroles, hein. Il l'écrit ce soir-là. Hein. Quel repos céleste, Jésus, d'être à toi pour la mort et la vie, dans les jours mauvais, de chanter avec foi, tout est bien, ma paix est infinie. Ça, Horatio, il a vécu la parabole de Jésus. Dieu qui donne son esprit et qui donne sa paix. Une paix, mes frères et sœurs, que personne ne peut avoir. Humainement, c'est impossible. Si ce n'est celui qui déverse son cœur devant Dieu, qui reconnaît que ses placards sont vides, qu'il ne peut rien. Et Dieu l'a agi. Il agit dans le cœur d'Horatio, il agit dans le cœur de milliers de chrétiens. Et ce matin, il veut agir dans ta propre vie. Donner son esprit. Pour te donner la paix, au-delà de résoudre tes bidouilles, là, tes petits problèmes des travaux quotidiens, il veut te donner la paix, la confiance absolue, cette confiance dans le Saint-Esprit que les apôtres ont eue. Alors qu'ils se font bouffer par les lions, ils sont en paix. Pire, ils prient pour les Romains. Cette paix que Jésus va avoir, que les chrétiens à travers les siècles ont eue et que nous pouvons avoir. Cette paix qui n'est disponible seulement si nous reconnaissons notre misère. Placard vide. Mes frères et sœurs, à quelle porte ce matin allons-nous frapper? À quelle porte nous frappons quand nos placards sont vides? Parce qu'au quotidien, on frappe tellement à d'autres portes que celles du Seigneur. Et ça peut se comprendre, hein. Et quand je dis ça, je me mets dedans. On va frapper souvent à la porte du divertissement. On va vivre dans un déni quelque part. Divertissement des écrans, de la télé, pour essayer d'oublier notre quotidien, notre stress, nos tracas, en pensant que ça ira mieux. Alors ça va bien sur le coup, mais ça avance rien. Hein. On va aussi frapper à la porte du travail ou de l'activisme pour se prouver qu'on contrôle encore quelque chose. Tout ça, c'est des formes de déni. Ou encore, là c'est encore plus délicat, on va frapper à la porte de notre conjoint ou de nos amis en attendant d'eux qu'ils réparent nos vies, qu'ils comblent notre vide intérieur. Alors attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas se confier à nos conjoints, à nos proches. Si, si. Mais il y a une différence entre se confier et attendre d'eux une réaction que Dieu seul a. Et souvent, quand nous faisons comme ça, on frappe à des mauvaises portes. On leur met, déjà sur leurs épaules, une pression immense que Dieu seul peut porter. On gratte partout pour trouver un peu de réconfort humain, mais ce matin, Jésus nous rappelle que toutes ces portes mènent à des placards qui seront vides. On peut courir dans tous les sens, mais frères et sœurs, Dieu est patient. Il nous regarde et dit « bon, on va laisser courir, il viendra vers moi à un moment. » Mais n'attendons pas d'être fatigués, approchons-nous de lui. Quand j'ai écrit ça, je me suis vu moi-même. J'ai dit, David, là, ça faut le vivre. Allez, approchons-nous du Seigneur. Jésus est mort sur la croix, ressuscité pour une chose extraordinaire, déchirer le rideau qui nous séparait de Dieu. Pour que ce Dieu-là, nous puissions l'appeler Père. C'est tout le sens de cette parabole. Et ce Père, il est disponible 24 heures sur 24. Il n'est pas comme ce voisin qui est pris, qui est dérangé. Il nous attend. Et Dieu nous dit ce matin, dans ta nuit, Viens auprès de moi, viens au milieu de ta crise, viens avec ton placard vide, viens avec tes soucis, viens avec ton péché. Si tu te sens pécheur ce matin, c'est pas en... tu ne crois pas que Dieu, lui, te voit d'un regard en mode il va te taper dessus. C'est pas du tout, il est venu pour toi. Et demande, cherche, frappe à ma porte, c'est ce que Jésus ici dit. Et Jésus et Dieu, quelque part, déversera son esprit et sa grâce dans ta vie. Amen. Alors, courbons nos têtes ce matin, mes frères et sœurs. Et prions, et puis on va prendre après ce chant d'Horatio, quel repos céleste. Et après ce chant, voilà, je vous invite de prier librement. Quelques voix s'élèvent. Mes frères, merci Seigneur encore, mon Dieu, pour ta parole ce matin. Cette parabole qui est belle, mon Dieu, et qui nous montre. Alors que nous le savons des fois, mais nous l'oublions, combien tu es ce tendre Père qui nous aime d'un amour tellement infini. Viens nous donner, mon Dieu, ce matin, de l'humilité. Que nous puissions, mon Dieu, ne pas compter sur nos propres forces, prier et tourner en rond, être dans l'anxiété, réfléchir à tout sens. Viens, Jésus, remplir nos vies. Je te dis dans cette parabole, mon Dieu, que tu es capable de nous donner ta paix, de nous donner ton Saint-Esprit. Et ce Saint-Esprit, mon Dieu, ce Consolateur suprême, tu veux nous le donner ce matin. Et nous qui t'avons connu, mon Dieu, ce Saint-Esprit qui habite dans nos cœurs, mon Dieu, viens encore, Jésus, encore nous rappeler à toi, pour que ta paix puisse vraiment régner dans notre cœur, comme Horatio, comme ces milliers de chrétiens à travers l'histoire, qui ont connu ce Dieu vrai et vivant, et qui sont restés en paix, malgré les circonstances. Jésus, aide-nous à te faire confiance. Aide-nous à dépendre complètement de toi, même sur les petites choses, d'avoir un cœur simple, un cœur d'enfant, qui sait s'approcher de toi de manière simple et efficace, sans réfléchir, de manière compliquée. Aide-nous, Père, à retrouver ce cœur et cet esprit d'humilité. Amen. Bien, on peut prier.
Quel repos céleste, Jésus, d'être à toi pour la mort et la vie. Dans les jours mauvais, de chanter avec foi, tout est bien. Ma paix infinie, quel repos, quel repos, quel repos, quel céleste repos, quel repos céleste. Mon fardeau n'est plus, libre par le sang du calvaire. Tous mes ennemis, Jésus les a vaincus. Gloire et louange à Dieu, notre Père. Quel repos, quel repos, quel repos, quel céleste repos. Thank you. repos céleste, qu'enfin, Seigneur, auprès de toi j'aurai ma place. Après les travaux, les combats, la douleur, à jamais je pourrai voir ta face. Quel repos, quel repos, quel repos, quel céleste repos, quel repos, quel repos, quel repos, quel céleste.
Alors, nous allons maintenant avoir un temps de Sainte-Cène. J'invite ceux qui ont été nommés pour passer à la distribution du vin et du pain. La Sainte-Cène, c'est un...